Des Amazones mythiques ensorcelées et sorcières comme Médée se vengeant de Jason, la reine Amazone pentésilée luttant contre Achille, mais aussi Judith contre Holoferne, aux figures plus récentes telles que Thelma et Louise, Black Mamba, héroïne du film Kill Bill, Nikita, Arya dans Game of Thrones, la boxeuse de Million Dollar Baby, pour n'en citer que quelques-unes. Les figures de femmes violentes sont nombreuses dans les productions littéraires, cinématographiques, culturelles en général. Pourtant, au-delà de ces figures fictives, les femmes violentes existent aussi dans le monde réel. Des reines qui n'ont pas hésité à en venir au meurtre pour asseoir leur pouvoir, jusqu'aux résistantes, en passant par les sœurs Papin, les suffragettes, les combattantes, Maria del Carmen Garcia, Jacqueline Sauvage, mais aussi les tueuses en série, les terroristes, les mineurs criminels. Ces femmes violentes existent, celles qui s'emparent de la violence dans le monde réel pour parvenir à leur fin, quelle qu'elle soit. Elles suscitent en même temps fascination et aversion, elles sont décrites à la fois comme courageuses et monstrueuses, pourtant elles sont souvent passées sous silence. Une chose est sûre, ces femmes violentes n'en finissent pas d'éveiller des interrogations. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Violente et à travers ce podcast on s'intéressera à ces figures, fictives ou réelles. Comment est-ce qu'elles sont représentées? Quel type de violence est-ce qu'elles utilisent? Qui sont leurs victimes? Font-elles preuve d'une violence première ou s'agit-il d'une riposte comme réponse à une violence antérieure qu'elles ont subie? Vengeance, ambition, révolution, les motivations et les violences sont diverses. Il s'agit donc de visibiliser ces femmes violentes trop longtemps et trop souvent cachées. Elles ont existé à travers les siècles, elles ont souvent été tuées. Il importe donc de mettre aussi en voix leur histoire. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Zora Larousse, ou plutôt donc du groupe de femmes en non-mixité qui s'appelait ainsi donc les Rote de Zora en allemand, ce qui veut dire en français Zora Larousse ou Zora la Rouge. Donc c'est un groupe de femmes qui a réalisé une quarantaine d'attentats entre 1974 et 1994 en RFA, c'est-à-dire en Allemagne de l'Ouest, parce qu'à ce moment-là, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était divisée. Et donc les Rote de Zora luttaient contre le sexisme, le racisme, le capitalisme, dans une approche qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'intersectionnelle, c'est-à-dire une approche qui permet de penser l'articulation entre les différentes formes d'oppression en fonction du genre, de la race, de la classe, de la religion. Et les Rote de Zora dissocient violence d'un côté et militarisme et pouvoir de l'autre, puisque elles ont souvent utilisé la violence dans leur mode d'action, mais elles affichent quand même des positions antimilitaristes et critiquent tout rapport de pouvoir. Et elles sont héritières d'un côté de la pratique de la lutte armée, parce qu'elles faisaient partie avant des cellules révolutionnaires, qui étaient une organisation de guérilla urbaine de gauche, active en Allemagne de l'Ouest, surtout dans les années 70 et 80. Mais d'un autre côté, elles héritent aussi des enseignements et des théories politiques qui ont été développées pendant le mouvement étudiant ouest-allemand, qui est survenu en 1968 notamment, et pendant lequel des manifestations étudiantes au début éclatent. Et donc ces étudiants aspirent au changement contre une société de consommation qui se développe de plus en plus et qui dénonce notamment la guerre au Vietnam. Et donc ces Rote de Zora s'appellent aussi les Frauenlesben, c'est-à-dire les femmes slash lesbiennes, même si dans leurs écrits, elles disent qu'elles ne sont pas satisfaites de cette expression qui ne rend pas la globalité et la complexité de la situation. Et elles organisent aussi des manifestations de désobéissance civile. Et à côté de tous ces divers types d'actions, elles exerçaient pour la plupart des métiers de la classe moyenne et menaient des vies relativement normales. Dans un communiqué de 1981, intitulé « Chaque cœur, une bombe à retardement », elles écrivent au début « Toujours les femmes ont combattu dans des groupes armés, cependant la plupart du temps, on a dissimulé leur participation à cette lutte. Mais aujourd'hui, cela change. » Et pourtant, beaucoup de recherches scientifiques ont été publiées sur les mouvements étudiants, sur les organisations allemandes de lutte armée des années 70, mais peu d'études ciblées sur les Rote de Zora ont été réalisées spécifiquement, et aucun ouvrage complet en français ne leur a encore été dédié, sauf un ouvrage auto-édité intitulé « En catimini », Histoire et communiquer des Roteux de Zora, et qui a publié donc un certain nombre de leurs écrits où donc les Roteux de Zora revendiquaient et expliquaient leurs actes. Et il y a aussi un site internet intitulé donc du même nom en catimini, où certains de leurs textes ont été traduits, notamment en français. Et sur ce site, donc, on peut voir une présentation du groupe où il est écrit « Les Roteux de Zora, parmi quantité d'autres groupes de la même époque, parfois plus éphémères, parfois sans nom et sans revendication, ont su échapper à la répression. Il importe que leur expérience soit connue pour rappeler, à travers elle, que la lutte n'a pas fatalement l'issue toujours médiatisée de l'enfermement. Peu connu en France jusqu'à présent, ce groupe a marqué l'histoire du féminisme en RFA. La parole est donc donnée aux Roteux de Zora elles-mêmes, avec la publication d'un texte de présentation de leur groupe, d'une interview et d'une sélection de leur communiqué d'action. D'un autre côté, on a aussi Irénée, donc une autrice féministe qui a publié en 2021 un livre intitulé « La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste » qui consacre un chapitre synthétique sur leurs actions. Et donc le titre de ce chapitre, Zora Larousse, que j'ai repris aussi pour cet épisode, est la traduction donc française de leur nom allemand, Roteux de Zora. Et Irénée écrit notamment « Comment expliquer que l'histoire du groupe Roteux de Zora soit si mal connue ?» alors qu'il a officié pendant 20 ans, a commis de nombreux attentats, dont certains couronnés de succès, ainsi que des actions de désobéissance civile non violente. Donc, une fois encore, il s'agit de restituer l'histoire négligée de ce groupe de femmes violentes. Qui étaient-elles? Quelles étaient leurs revendications, leurs pensées politiques? Et de quelle sorte de violence est-ce qu'elles ont fait preuve? C'est ce que je vais essayer de voir aujourd'hui. Donc. Alors on va d'abord remonter aux origines du groupe et d'abord du nom. Roteux de Zora, Zora Larousse, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi s'appeler comme ça? C'est donc un nom qui fait référence au livre de l'écrivain allemand Kurt Held, qui a été publié en 1941 et dont le titre allemand c'était « Die Roteux de Zora ihre Bande », donc en français ça donne « Zora Larousse et sa bande ». Et dans ce livre, donc, l'auteur s'est inspiré d'une bande qu'il a croisée lors d'un de ses voyages en Yougoslavie, une bande d'adolescents qui était dirigée par Zora. C'était une bande qui s'était installée un peu en marge de la société, dans un château, et elle préparait des mauvais coups contre les habitants qui étaient méprisants envers ces orphelins. Et donc, les militantes du groupe adopte ce nom en 1977, et ce qui leur permet aussi d'avoir les mêmes initiales que le groupe des révolutionnaires Zellen, c'est-à-dire les cellules révolutionnaires, un groupe dont elle faisait à l'origine partie, parce que les deux groupes veulent tous les deux construire une structure, un réseau en dehors du contrôle de l'État. Pourtant, les Roteux de Zora s'en détachent parce qu'elles ont des divergences politiques avec ce groupe. Et donc pour revenir sur leur lien un peu avec les cellules révolutionnaires et donc leurs origines communes, c'est un peu compliqué à résumer en quelques phrases, mais donc c'était un groupe armé, héritier du mouvement étudiant à la fin des années 60. Et comme le montre Pauline Corr dans son article « Refus radical et pratiques féministes, les Roteux de Zora », les militantes donc de ce groupe des Roteux de Zora font d'abord partie de l'organisation mixte des cellules révolutionnaires qui prônent l'antimilitarisme, l'anti-américanisme, l'antisionisme et revendiquent aussi leur solidarité avec la lutte des travailleurs, avec la lutte des femmes. Donc en théorie, le féminisme semble avoir autant de valeur que le combat contre le capitalisme, par exemple. Pourtant, une distinction s'opère avec la pratique, et c'est ce qu'elles écrivent dans leur livre « Militants of the Ice », donc qu'on traduit en français par « La danse des militantes sur la glace », qui retrace leurs actions, et elles expliquent qu'elles se détachent des cellules révolutionnaires à cause de la marginalisation des considérations féministes qui revêtent peu à peu une spécialisation. Alors en fait, ce sont les femmes qui s'occupent des luttes pour les femmes, ce qui crée une sorte de division des tâches où le féminisme a une place périphérique dans les luttes. Et alors certains membres des cellules révolutionnaires aussi refusent la mixité, ce qui sonne un peu comme le début de l'éloignement et de la prise d'autonomie des Roteux de Zora. Alors, on peut regarder un peu se pencher sur leurs idées politiques. Et ce qui est très riche, c'est qu'elles ont pris le temps d'écrire à propos de leurs actions, d'expliquer leurs raisons, de théoriser leurs pratiques de la violence. Et donc, les Roteux de Rats, comme on l'a dit, affichent une position antimilitariste. Elles se placent contre la mystification de la lutte armée et contre le concept de guérilla, s'il a pour objectif la prise de pouvoir par la force militaire. Et donc, elle refuse de participer à une hiérarchisation des formes de lutte où la lutte armée aurait la primauté sur les autres. Et elles utilisent notamment dans leurs écrits le terme de Gegenmacht, traduit par le mot contre-pouvoir, pour caractériser la violence dont elles font usage, c'est-à-dire une violence qui n'a pas pour but de conquérir le pouvoir, mais plutôt de le détruire. Et à leurs yeux, cette violence dont elles font preuve est défensive et participe à d'une légitime défense, en fait. Et elles écrivent: afin de le distinguer du pouvoir dominant, nous avons utilisé le terme contre-pouvoir, donc dans leur texte Gegenmacht, qui signifie le combat contre le pouvoir patriarcal. En 87, elles doivent faire face à une vague de répression pendant laquelle des journalistes féministes allemandes sont arrêtées pour complicité. Et donc elles sont un peu obligées de se faire discrètes pour quelque temps. Et elles en profitent notamment pour théoriser leur expérience rendue dans le Milice Dance of Them Eyes, la danse des militantes, qui est publiée ensuite en 1993. Et on peut voir que cette pensée, toutes les féministes ne la partagent pas. Les Roteux de Rats ne souhaitaient pas se cantonner aux pratiques politiques du mouvement féministe déjà existant, qui délaissent la force explosive pour se concentrer sur la recherche d'un bonheur subjectif. Et c'est pour ça qu'elles créent ce nouveau groupe. Et donc on peut voir dans certains écrits que les féministes ne sont pas d'accord avec leur usage de la violence. Par exemple, il y a Sibylle Pochtett, membre de l'Union socialiste allemande des étudiants dans les années 60, qui publie en 81 dans la revue Courage un texte dont le titre en français donne La violence est-elle arrivée dans le mouvement féministe? Où elle remet en cause l'efficacité des actions violentes en déclarant que la violence est une puissance feinte qui en dit plus sur la personne qui en use que sur l'objet contre lequel elle se dirige. Et donc, d'un autre côté, il y a les Roteux de Zora qui sont en contradiction avec ces propos et qui, elles, écrivent: l'oppression n'est reconnue que lorsqu'il y a résistance. C'est pour cela que nous sabotons, boycottons, endommageons et nous vengeons des violences et des humiliations subies en attaquant ceux qui en sont responsables. Dans leur pensée, elles considèrent l'État comme la source des violences structurelles et donc elles ne croient pas qu'une pratique politique légale est efficace et suffisante. Et c'est ce qu'elles expliquent clairement en disant: la voie légale n'est pas suffisante parce que généralement les structures de la violence sont légales. Et donc elles insistent aussi sur la diversité des combats féministes. Elles réfléchissent à leur place dans les luttes féministes internationales. Elles sont conscientes aussi de leurs privilèges blancs. Elles créent une sorte d'analyse intersectionnelle des dominations, comme en témoigne leur texte en 81. Donc, où elles écrivent: il n'y a pas qu'une lutte féministe pure, mais plusieurs formes de lutte de femmes. Et à l'intérieur de chacune, il y a toujours plusieurs éléments en mouvement. Mais bon, alors on va en venir à leurs actions violentes en tant que telles. Qu'est-ce qu'elles ont fait en fait? Alors, les Roteux de Rats ont eu recours beaucoup à la violence à travers de nombreux incendies, aussi l'usage d'explosifs, de bombes, et elles visent notamment des lieux et des symboles de pouvoir. Irénée, dans son ouvrage de 2021, écrit qu'elle cible entre autres des institutions médicalisées qui refusent le droit à l'avortement, des grandes entreprises qui propagent l'oppression capitaliste, des sex shops aussi qui commercialisent des viols filmés. Et donc, entre 1975 et 1995, elles organisent une cinquantaine d'attentats en Allemagne de l'Ouest, mais elles réalisent aussi donc d'autres actions non violentes de désobéissance civile. Il y a deux événements qui marquent le début du groupe des Roteux de Rats, même si elles n'adoptent ce nom qu'en 77, 2 ans plus tard. Donc pendant la guerre froide, en mars 75, elles provoquent l'incendie de la cathédrale de Bamberg en Bavière pour protester, comme elles l'écrivent, contre le sale rôle de l'Église catholique dans l'oppression des femmes. Et donc en mars 75 également, il y a un projet de loi qui devait dépénaliser l'avortement en RFA qui est annulé par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Donc elle décide de déposer une bombe dans ce tribunal constitutionnel où se déroulaient les pourparlers pour voter ce paragraphe 218 sur la dépénalisation de l'avortement. Parmi les nombreuses actions qu'elles ont menées, elles ont aussi par exemple lutté pour la gratuité des transports publics. En 1975 a lieu en Allemagne des manifestations pour les transports gratuits et contre l'augmentation des tarifs des transports publics dans les grandes villes. Et c'est dans ce sens qu'elles organisent la destruction de 10 distributeurs automatiques de tickets avec des engins incendiaires, et elles écrivent un communiqué d'action sur cet événement en disant que si ces distributeurs automatiques ne fonctionnent plus, personne ne peut plus acheter de tickets, c'est-à-dire que personne n'a plus besoin d'en avoir. Ensuite, elles organisent en 82 un incendie à Berlin dans la firme Schering, notamment responsable de la commercialisation de médicaments reconnus comme dangereux et de la stérilisation forcée de femmes. Et l'année d'après, en 83, elles incendient la voiture du docteur Lindemann, un médecin-chef de l'hôpital Elisabeth à Hambourg, qui était spécialiste de la stérilisation des femmes dans certains pays d'Afrique notamment. On peut voir aussi qu'elles combattent la marchandisation du corps des femmes. Donc en 78, elles orchestrent une série d'actions contre les sex shops, et dans les années 80, il y a notamment donc un commerce sexuel qui se développe, et en RFA, on compte à peu près 200 entreprises qui prennent le nom d'agences de mariage ou bien d'agences de voyage et qui font en fait du commerce de femmes asiatiques et notamment de femmes venant des Philippines. Contre ça, le 8 mars 83, les Rote Zora brûlent la voiture d'Heinz Kirchner à Cologne. Et donc Heinz Kirchner, c'était un entremetteur particulièrement impliqué dans ces affaires, et elle pose aussi des dynamites dans le consulat des Philippines de Bonn en déclarant que le gouvernement philippin soutient et encourage ce business en vendant ses habitants pour s'enrichir. Et ensuite, une de leurs actions les plus célèbres, c'est donc contre la société Adler aux côtés d'ouvrières grévistes, parce que en juin 1987, les ouvrières de l'entreprise Flair Fashion en Corée du Sud font grève pendant 9 jours pour protester contre leurs conditions de travail. Mais à la suite de cette grève, elles sont victimes de répression, donc avec des licenciements, des arrestations. Et alors, en réponse à leur demande d'aide et en guise de soutien, les Rote Zora provoquent des incendies dans plusieurs magasins de la firme en RFA et déposent une bombe aussi devant son siège social à Heibach. Elles organisent aussi d'autres attentats contre une dizaine de filiales d'Adler. La société finit par céder aux revendications de ses ouvrières, ce qui est considéré par les Rote Zora comme une victoire significative. Et donc cette action-là illustre aussi leur pensée politique, parce que comme elles le déclarent dans un de leurs écrits, « Nous ne combattons pas pour les femmes dans les pays de la périphérie, nous combattons avec elles. » Après, donc, il y a une période calme entre 87 et 93, où elles mettent leur temps à profit pour écrire et théoriser leur activité, et elles réalisent une dernière série d'attentats dans les années 90, avec notamment en 95 une attaque contre un chantier naval qui construisait des navires de guerre destinés à l'armée turque. Et pourtant, donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré la violence de leurs attaques, parce que donc elles posent des bombes, elles provoquent des incendies, les Rote Zora n'ont jamais mis en danger l'intégrité physique des individus, et leurs attentats n'ont jamais tué personne. Elles tenaient vraiment à ne mettre personne en danger pendant leurs attaques, et elles expliquent que parfois elles ont écarcé certaines actions parce que justement elles les considéraient comme trop dangereuses. Et il s'agit d'une des seules organisations de lutte armée à n'avoir jamais fait aucune victime. Alors, j'ai pas mentionné toutes les actions des Rote Zora, tous leurs attentats ou les manifestations de désobéissance civile aussi qu'elles ont réalisées, puisqu'elles ont organisé une cinquantaine d'attaques en 20 ans. On peut le redire, le groupe a marqué l'histoire du féminisme en RFA, a fait partie intégrante des organisations révolutionnaires qui ont vu le jour dans le pays à la fin des années 60. Et elles sont presque inconnues en France, alors il est crucial de replacer leur histoire, l'importance qu'elles ont eue en Allemagne de l'Ouest, et de partager et restituer à la fois leurs actions, mais aussi, puisqu'on est riche de leurs écrits, la pensée de Zora Larousse. C'était Violente, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous tenir au courant de l'actualité de Transistor sur la page Instagram ou sur le site internet. Bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt pour un nouvel épisode.